moment du culte. Et c'est pourquoi nous allons simplement dire merci au Seigneur. Lui dire merci pour toutes choses, parce qu'il est le Dieu de fidélité et de bonté. Il est le Dieu qui ne change point. Et ce matin, nous voulons avoir un message d'exhortation les uns les autres. Nous allons parler ce matin du désert. Comment Dieu conduit le peuple de Dieu dans le désert. Et vous allez comprendre que chacun d'entre nous va se retrouver dans un de ces aspects du désert. Et vous allez saisir que c'est dans ces moments du désert que Dieu vient se révéler à vous dans chacune de ses caractéristiques. Si vous n'avez jamais passé par le désert, vous ne connaissez pas encore le Dieu qui vous a sauvé. Vous ne le connaissez pas du tout. Si vous semblez être sur les monts, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la Bible, nous réalisons, frères et sœurs, chaque fois nous voyons les montagnes, nous voyons les déserts, nous parlons des vallées. Chaque fois qu'il y a une montagne qui est présentée dans la Bible, cette montagne-là est en relation avec la personne de Dieu. Chaque fois qu'il parle de vallée, c'est en relation avec la personne de Dieu. Chaque fois qu'il parle de désert, c'est en relation avec la présence de Dieu. Alors ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons simplement dire merci au Seigneur pour tout ce temps que nous avons passé ensemble. Depuis donc le jeudi et le vendredi, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Si vous voulez bien, nous voulons ce matin ouvrir nos Bibles. Dans Osée chapitre 2, un passage que vous avez lu et relu sûrement, Osée chapitre 2, Osée, si vous allez après Daniel, vous allez trouver Osée, donc, afin que nous puissions partager cette parole de Dieu ensemble. Ézéchiel, Daniel, après Daniel, vous avez le livre d'Osée. Chapitre 2 et au verset 16. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Vous entendez? Dieu dit, c'est pourquoi je veux l'attirer. Quand nous entendons les expressions dans la Bible, c'est pourquoi, cela veut dire qu'au précédent, il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme la personne ne veut pas écouter, Dieu va l'amener au désert. Dieu va l'attirer au désert comme un aimant attire le fer. Dieu va le conduire au désert. Et c'est au désert que Dieu parle à notre cœur. Pourquoi Dieu veut conduire son peuple dans le désert? Le désert, c'est le lieu de la solitude. Car lorsque nous sommes dans les foules, lorsque nous sommes dans les plaines arrosées de Sodome et Gomorre, comme Lot, nous n'entendons pas la voix de Dieu. Lot était assis à Sodome et Gomorre, il n'a même pas entendu ce que Dieu avait dit, qu'il allait détruire Sodome et Gomorre. Parce que Lot était préoccupé, c'était le juste. Il était préoccupé par des soucis matériels. Il était préoccupé par des soucis financiers. Il était préoccupé par beaucoup de choses. Et en ce temps, Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorre où Lot était assis. Mais Abraham se trouvait au désert. Et c'était au désert, dans la solitude, où aucune voix ne vient pour l'importuner. C'est en ce moment que Abraham a entendu la voix de Dieu. Dieu dit, ferai-je cette chose sans l'avoir révélée à mon serviteur, mon frère et ma sœur. Dieu nous conduit au désert. Parce que dans les plaines arrosées de Sodome et Gomorre que ce monde représente, nous entendons trop de voix. Nous entendons nos propres voix qui sont les soucis. Nous entendons les voix du monde. Nous entendons la voix de l'ennemi. Nous entendons toutes sortes de voix. Nous sommes sollicités par ces voix. Et la voix de Dieu étant toujours une voix douce et qui ne s'impose pas. Dieu est un gentleman. Il ne s'impose à personne. Et c'est pourquoi nous rejetons, nous acceptons les voies de contrainte de la télévision, les voies de contrainte de la radio, nous acceptons les voies de contrainte du diable. Mais Dieu vient tout doucement, il veut de façon gentille pour parler à notre cœur, nous le repoussons. Tout le temps nous le repoussons. C'est pourquoi Dieu dit, je vais t'attirer dans le désert. je vais te conduire dans le désert, et là, toi et moi dans la solitude, puisqu'il n'y aura plus personne pour t'importuner, il n'y aura plus personne pour te contraindre, il n'y aura plus de voix qui vont te solliciter, dans cette solitude du désert, je vais parler, pas à ta tête, je vais parler à ton cœur. Je vais parler à ton cœur. Frères et sœurs, Dieu veut parler à notre cœur. Et c'est important ce matin que nous puissions saisir cela. C'est pourquoi, regardons de façon étrange comment Dieu a conduit son peuple dans Exode 13. Exode 13, nous voyons comment lorsqu'Israël était prêt à partir, Dieu les a sauvés en Égypte. Maintenant, ils vont commencer le cheminement pour aller à Canaan. Regardons comment Dieu va les conduire. Exode chapitre 13, s'il vous plaît, et au verset 17. Exode 13, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons. Exode 17, 13 du moins, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vous entendez? Pas le diable. Dieu même, si nous regardons sur le plan géographique, en ayant la carte du Moyen-Orient, là où le peuple de Dieu était en Égypte, et la terre promise Canaan, même pas 20 jours de marche pour arriver là-bas. Même pas. Pourtant, la Bible dit, le chemin qu'ils vont prendre, si vous regardez sur la carte, ils vont redescendre jusqu'en Arabie, jusqu'au mont Sinaï, et ensuite remonter, et ils vont mettre là plus de 40 années. Dieu dit, je vais conduire mon peuple par le détour du chemin du désert, parce que je vais leur enseigner à me connaître. Il faut qu'à chaque étape du désert qu'ils vont traverser, qu'ils apprennent à me connaître personnellement. Frères et sœurs, nous allons voir maintenant quels sont les déserts qu'ils vont rencontrer. Sur le chemin du désert, il y a plusieurs étapes, plusieurs sortes de déserts que nous allons rencontrer et que le peuple de Dieu a rencontré. Et si nous nous prenons garde, quand à la fin Dieu voulait faire le bilan de ceux qui sont passés par les déserts, il ne restait deux qui ont pu affranchir tous les déserts, Josué et Caleb. Il n'y avait deux qui ont pu franchir tous les déserts. Pourtant Dieu était avec eux. Pourtant, la présence de Dieu était là. Pourquoi, malgré la présence de Dieu, pourquoi, malgré la puissance de Dieu, pourquoi, malgré la promesse de Dieu, il n'y a que deux qui ont pu arriver à Canaan? C'est ce que nous allons comprendre ce matin, et que Dieu nous aide par son Saint-Esprit, qui nous conduit ce matin, afin que nous puissions être vraiment, non pas des auditeurs oublieux, que nous puissions ouvrir nos cœurs ce matin, et que la grâce de Dieu surabonde dans chacun de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Premier désert que nous allons rencontrer dans Genèse 21. Genèse 21, nous allons voir le premier désert dans lequel il se peut ce matin, mon frère, te trouve. Genèse chapitre 21, il s'agit de l'histoire d'Agar. Dans ce passage de Genèse 21 au verset 9, la Bible nous montre Agar, la servante de Saraï, qui a pu enfanter un enfant avec Abraham. Quelque chose va se passer dans la vie de cette femme. Genèse donc 21, à partir du verset 9. La Bible nous parle, la Bible nous enseigne, et Dieu nous dit ceci, « Sarah vit le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils. » Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux. Et accorde l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera tienne. Je ferai aussi une maison du fils de ta servante, une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Premier désert que nous allons rencontrer, le désert de Beersheba. Le désert de Beersheba signifie quoi dans la vie du croyant? Agar était dans la maison d'Abraham, le croyant. Abraham a appris à connaître Dieu. Mais la révélation qu'Agar avait était une révélation indirecte qui venait de ce que Abraham connaissait Dieu. Et souvent, c'est ce que le peuple de Dieu, à travers les pasteurs Abraham, à travers le prophète Abraham, nous entendons parler beaucoup de Dieu. À travers les évangélistes Abraham, nous sommes comme des Agars. Nous entendons la parole de Dieu. Nous bénéficions de la grâce de Dieu. Car Abraham est celui qui a été appelé pour conduire donc sa famille dans la terre promise. Mais maintenant, Agar va faire sa propre expérience de la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, si malgré le fait que nous vous prêchons l'évangile, nous pouvons vous dire ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a révélé, mais il faut qu'à un moment donné, vous-même, personnellement, vous puissiez expérimenter la réalité de Dieu, que vous puissiez le connaître dans un aspect de son caractère. Donc au désert de Beersheba, quand Agar est partie là-bas, elle avait une outre d'eau, une outre en pot où il y avait de l'eau et il y avait du pain. Ce sont les ressources naturelles que nous avons et que nous voulons utiliser pour traverser, pour faire le chemin de Dieu. L'outre, le pain, ce sont les ressources naturelles que nous avons. Nous voulons entreprendre le chemin de Canaan. Nous voulons aller sur le chemin de Canaan en comptant sur nos propres ressources, en comptant sur notre intellect, en comptant sur l'eau que nous avons. Mais l'outre, c'est ce qui a été fabriqué par l'homme. L'outre, c'est là où on a mis l'eau. L'outre est limitée et le pain que nous avons va nous donner la force. Mais c'est pendant un moment et pendant quelques kilomètres. Et effectivement, Agar s'en va avec l'outre. Et au fur et à mesure qu'elle avançait, l'outre, et donc la Bible dit, si nous lisons la suite, quand l'eau de l'outre fut épuisée, vos ressources naturelles vont s'épuiser que vous le voulez ou pas. Votre zèle va s'épuiser à un moment donné. Votre foi que vous avez va s'épuiser. Parce qu'encore, vous n'avez pas rencontré celui qui est la source de l'eau. Vous n'avez qu'une outre avec vous. Mais il y a un puits que vous devez rencontrer. Il y a une source d'eau que vous devez rencontrer. Et cela est invisible à vos yeux. Pourtant, vous allez avec l'outre. L'outre fut épuisée. Elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc là vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Quelle terrible chose. Elle qui est partie avec son enfant... La vie était en train de partir de cet enfant. Et Agar ne pouvait plus rien. Et elle a donc, en tout cas, tourné l'outre d'eau. Les dernières gouttes ont été données à l'enfant. Le dernier morceau de pain a été donné à l'enfant. Maintenant, ses forces naturelles sont épuisées. Ses ressources naturelles sont épuisées. Frères et sœurs, vous n'allez pas rencontrer Dieu jusqu'au moment où vos ressources naturelles sur lesquels vous vous reposez, ne sont pas épuisés. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu? Ils sont comme Job. Job était prospère. Job était béni. Tout le monde le vantait. Il avait des ressources. Il avait des enfants. Il avait de l'argent. Il était en bonne santé. Tout le monde dit, voici le modèle de chrétien qu'on veut. Un chrétien prospère, un chrétien béni, mais qui n'a jamais rencontré Dieu. Il a entendu parler de Dieu. Il faisait tout pour obéir à Dieu. Job va le dire lui-même, ce n'est pas moi qui le dis. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Nos églises sont remplies de Job, des gens sincères. Dieu même a dit que Job, c'est un homme qui craint l'Éternel. Il est sanctifié, mais il ne connaît pas Dieu dans sa qualité de Dieu personnel, de Dieu qui vient se révéler à lui dans les moments difficiles. Frères et sœurs, voici un exemple. L'enfant Ismaël mourait, Agar était épuisée, elle élève la voix. La seule chose qui lui reste, c'est sa voix pour pleurer. Vous est-il arrivé à vous asseoir, désespéré, ne sachant que faire? Vous voulez vous accrocher à quoi? Quand quelqu'un se noie, il veut s'accrocher à n'importe quoi. Vous êtes accroché à quoi aujourd'hui dans votre vie, là où vous êtes ce matin? Êtes-vous comme Agar? Êtes-vous dans le désert de Beersheba? Êtes-vous dans le désert de Beersheba, totalement épuisé? Votre famille qui va en dislocation, aucun espoir, et vous êtes ce matin, le cœur brisé, se demandant d'où viendra le secours. Vous avez levé les yeux, vous attendez que Dieu intervienne, comme Agar, et vous êtes là assis, vous posant des questions. Au moment où on chantait, vos pensées sont en train d'aller à gauche, à droite. Oh, qui me délivrera? Je suis dans un désert, Seigneur, dans le désert de Beersheba. Comment vais-je m'en sortir? La mort est là devant moi. C'est en ce moment, frères et sœurs, que Dieu, qui est le Dieu d'Agar aussi, le Dieu de toute consolation, regardait Agar et l'enfant. Quand leurs ressources naturelles étaient épuisées, quand leur outre était épuisé, la Bible dit, le verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Elle entend maintenant la voix de Dieu. Premier contact d'Agar avec Dieu. Avant, elle n'entendait que la voix d'Abraham. Elle n'entendait que la voix d'Abraham. Abraham était le prêtre de la maison. Abraham était le pasteur de la maison. Frères et sœurs, il se peut que vous ayez entendu la voix de vos pasteurs pendant des années. Avez-vous entendu la voix de Dieu lui-même? Est-ce que Dieu est venu vous dire, qu'as-tu, ma fille? Qu'as-tu, mon fils? Dieu vous a déjà dit? Dieu vous a-t-il appelé clairement? Je n'ai pas dit de façon audible. Est-ce que dans votre situation, Dieu est venu se révéler à vous personnellement? Ou bien vous ne comptez que sur Abraham, le pasteur, le prophète, qu'il vous prophétise? Il y a un Dieu qui est plus grand que les prophètes. Abraham ne pouvait plus rien pour Agar. Abraham ne pouvait même pas prier pour Agar. Abraham avait renvoyé Agar, la séparation. Il n'y avait que Dieu seul. Et Agar ne savait plus quoi faire. Elle ne s'attendait même pas à entendre la voix de Dieu. Dieu vous parlera au moment où vous ne vous entendez même pas. Parfois dans le jeûne, vous partez dans le zèle du jeûne. Dieu ne vous parle pas. C'est un moment où rien, vous n'avez même pas envie de prier, c'est en ce moment que Dieu vient. Parce que le jeûne peut être aussi une outre encore que vous voulez utiliser. Le jeûne peut être des ressources naturelles, des ailes que vous voulez utiliser. Il y a des moments, vous êtes dans le dénuement total. Vous êtes désespéré de vous-même. Vous êtes indigne. Vous dites, mais Seigneur, il vaut mieux mourir. C'est en ce moment que Dieu vient et dit, qu'as-tu, Agar? Quel est ton problème, ma fille? Quelle est ta difficulté? Et la Bible dit ici, ne crains point. Quand Dieu vient vers vous dans le désert de Beersheba, il veut ôter la peur de votre cœur. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu es rempli de crainte, tu es rempli d'angoisse du lendemain, de la situation de ton mari, de la situation de tes enfants qui ont quitté la maison familiale et tu te poses la question, qu'est-ce qui va devenir? Dieu vient ce matin, il te parle, ne crains pas. D'abord, la crainte va enlever la foi. Agar, ne crains pas. N'aie pas peur. Jésus disait tout le temps à ces gens, n'ayez pas peur. La peur est l'ennemi de la foi. Ne crains pas, mon frère. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, car Dieu a entendu le cri de l'enfant dans le lieu où il était. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Regardez maintenant le verset qui suit. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Vous entendez? Le puits d'eau était là. Ce n'est pas un puits d'eau physique, hein? Il était là. Mais tant qu'Agar avait son outre d'eau, est-ce qu'elle pouvait voir le puits? Est-ce qu'elle pouvait voir le puits? Est-ce qu'elle avait besoin d'un puits? Si vous avez de l'eau avec vous, des ressources naturelles, est-ce que vous avez besoin de Dieu? Vous avez besoin du puits de Dieu? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu en réalité. Parce qu'ils ont des outres sous leur main gauche, des outres sous leur main. Certains ont des deux outres sur le dos, d'autres en ont devant sur le ventre. Et ils s'appuient quand ça ne va pas, c'est ça qu'ils boivent. Mais là, Agar n'avait rien. Dieu lui ouvrit les yeux. Vous entendez? Dieu lui ouvrit depuis le matin, tous les messages qui ont été donnés par prophétie ou autre, ouvrit les yeux. Ce matin, pour la Sainte Cène encore, vous avez entendu le même terme? Ouvrit les yeux. C'est ça! C'est la révélation. Le puits était là. Le puits était là. Elle mourait. Mais quand Dieu lui ouvrit les yeux, c'était un puits inépuisable, intarissable. Ce n'est pas un puits fait de main d'homme. Ce n'est pas une outre. Ce n'est pas le puits de Jacob. Quand Jésus a rencontré la Samaritaine au puits de Jacob, ce puits, Jésus dit, ce puits que Jacob a creusé. Est-ce que tu connais qu'est-ce que cela signifie le puits de Jacob? La Samaritaine dit non. Tu ne connais pas le nom Jacob? Elle dit non. Le nom Jacob veut dire trompeur. Ce puits-là est le puits du trompeur. Si tu bois là-bas, tu seras trompé tous les jours. Ce puits est le puits du séducteur. Jacob signifie trompeur, escroc, voleur. Si tu bois à l'eau du puits de Jacob, tu boiras tout le temps à la tromperie, à la séduction. Tu ne seras jamais satisfait. Jésus dit, j'ai une eau moi. J'ai un autre puits. L'eau vive. Si tu bois cette eau-là, elle va jaillir de la terre jusque dans l'éternité. Ce matin, c'est ça. Au désert de Beersheba où tu te trouves ce matin, mon frère, ma soeur. Tu es dans le désert de Beersheba. Tes forces, tu as pleuré. Tu as pleuré comme Agar. Tes yeux sont rouges. Tu as tout fait, tous tes efforts. Tes outres sont épuisés. Attends-toi, reste là. Il va venir. Car tu Agar. Ne crains pas. Ne crains pas. Regarde le puits. Regarde le puits de source. Le renouvellement. Dieu va te renouveler. Ce matin, il veut te renouveler. Il veut te donner un espoir nouveau. Afin que tu... Quand Agar a bu de cette eau, quand Agar a donné à son enfant, regardez, l'enfant est devenu un grand chasseur. Il est devenu une grande nation, un homme très puissant. As-tu rencontré Dieu au désert de Beersheba? Qu'est-ce que le désert de Beersheba signifie pour toi? Quelle est l'expérience du désert de Beersheba? As-tu eu dans ta vie un désert? As-tu passé par le désert de Beersheba? Sinon, mon frère, alors tu n'as pas rencontré le puits d'eau vive. Ce puits qui nous renouvelle à tout instant. Le deuxième désert que nous allons voir, puisque nous devons terminer pour pouvoir revenir l'après-midi tôt. Deuxième désert, Exode 15. Eh oui, mon frère. Faut qu'on aille dans les termes. Vous savez, c'est comme cela. Exode 15. Exode 15. Deuxième désert que nous allons voir. Tu as quitté le désert de Beersheba. Tu as bu l'eau vive. Tu es renouvelé. Tu es content. Tu es contente, ma soeur. Tu dis, ah, moi, je ne suis pas au désert de Beersheba. Gloire à Dieu. Tu n'es pas dans le désert de Beersheba. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyons le deuxième désert si tu ne te trouves pas là-bas. Deuxième désert. Chapitre 15, au verset 22. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Après le désert de Beersheba, il y a le désert de Chour. Qu'est-ce que ce désert de Chour? Regardons maintenant, ils sont arrivés au désert de Chour. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Vous voyez toujours l'eau. Ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ?» Frères et sœurs, au désert de Chour, c'est le désert où il y a l'amertume. Ton cœur est rempli d'amertume ce matin dans le désert de Chour. Ton cœur est rempli d'amertume contre ta belle-mère, ma sœur. Eh oui. Quand on dit son nom, dès qu'on dit ta belle-mère, déjà tout commence à grincher en toi. Désert de jour, désert de l'amertume. Ton cœur est rempli de haine parce que cet homme que tu as aimé t'a trahi. Cet homme qui t'a abandonné dans ta jeunesse, au moment où tout semblait réussir. Cet homme t'a abandonné et tu te trouves au désert de jour où tu vas rencontrer l'eau de Mara. L'eau de Mara, une eau, une étendue d'eau. Les Israélites ont vu, ils avaient soif. Ils ont couru, chacun avait son gobelet. Ils sont allés puiser dans l'eau de Mara. C'était temps, quand ils ont porté à leur bouche, l'eau était amère. Chacun avait... L'amertume était là. Ce matin, es-tu dans le désert de Mara? Au désert de Beersheba, Dieu a donné la solution par le puits. Qu'est-ce qu'il va faire au désert de Mara? Quand l'amertume remplit ton cœur est blessé. On t'a trahi. Cet homme t'a trahi. Ce patron t'a trahi. Ce frère, cette sœur t'ont trahi. Et on t'a diffamé. On t'a critiqué. On t'a maltraité, rejeté. Ton cœur est rempli d'amertume ce matin. Ton propre père t'a violenté. Ta propre mère t'a maudite. Ta propre mère a dit tu ne seras rien. Et chaque jour, on te répétait les mêmes choses. On t'a vilipendé. Tu es rempli ce matin de l'amertume, de la haine. Tu es rempli dans ton cœur. Tu es blessé au désert de Chour. Tu as rencontré l'eau de Mara, l'eau de l'amertume. Ce matin, mon frère, il faut que tu rencontres Dieu au désert de Chour. Tu as grandi avec cela. Tu as voulu montrer au monde que tu n'es pas un rien. Mais malgré que tu aies réussi, dans ton cœur, il y a le désert de Mara où l'eau amère est. Tu es arrivé, je parle à quelqu'un maintenant. Dieu me dit de parler à une personne qui a entre 60 et 65 ans. Précisément, ça fait 60 ans que tu te débats avec l'eau de Mara à cause de ton père. Je parle maintenant à quelqu'un de précis. Ici, dans cet danger-là. Tu m'entends? Tu te débats avec le désert de Chour. Tu as bu l'eau amère dans ta famille. Ton propre père t'a rejeté dès le début de ta vie. Et jusqu'à présent, tu as voulu montrer à tout ton entourage que tu peux réussir. Tu as réussi extérieurement, mais chaque fois que tu es seul, l'eau de Mara est là. L'eau de Mara est là. Veux-tu laisser ce matin, quand ils ont rencontré cette eau de l'amertume, qui pouvait guérir leur amertume? Moïse est allé vers Dieu. Il dit, mais Seigneur, nous avons quitté le désert de Beersheba, où nous avons bu l'eau vive. Nous avons été sauvés. Nous avons été renouvelés. Pourquoi nous sommes au désert de Chour dans l'amertume? Oui, tu dis, j'ai été sauvé. Quand j'ai été sauvé, j'avais la joie. J'ai rencontré le désert, le puits de Beersheba. Dieu m'a donné l'eau vive. Mais pourquoi je suis aujourd'hui dans le désert de Chour, Seigneur? Pourquoi? Israël disait cela. Alors Moïse a prié. Dieu dit à Moïse, tu vois cet arbre là-bas? Coupe un morceau, jette-le dans l'eau amère. Et cette eau va devenir une eau douce. Dans ton amertume ce matin, dans ton eau de Mara, il y a un seul bois qui peut te guérir, le bois du calvaire. C'est ça, le bois que Moïse a jeté, c'était déjà avant la lettre, la croix du calvaire, dans ton amertume. À la croix du calvaire est comme une éponge qui rentre en toi, qui épuise, qui enlève toute amertume ce matin. Est-ce que as-tu vu Christ à la croix du calvaire? As-tu vu Christ dans ton amertume? L'as-tu vu, frères et sœurs? Tu te débats avec ton amertume. Tu te débats avec la haine. À cause de ça, tu es malade. À cause de ça, tu as des ulcères. À cause de ça, tu as de l'arthrite. À cause de l'amertume, de la haine, ton cœur bat. Et tu as même des problèmes respiratoires. Chaque fois, ce matin, ne vas-tu pas laisser le bois du calvaire? Ne vas-tu pas laisser la croix venir entrer en toi pour enlever cette amertume, ma sœur, pour enlever cette amertume, mon frère. Ce matin, l'eau de Mara, c'est là-bas que Dieu, si vous lisez maintenant, à la fin du verset, le verset 26, Dieu va se présenter à eux, à Mara. Il va se révéler à eux, à Beersheba. Dieu s'est révélé comme un sauveur, comme celui qui nous donne la vie abondante. Ici, il se présente. Quand il a fini de parler, il dit, si vous m'écoutez, si vous prêtez l'oreille à mes paroles, dernière partie du verset 26, car je suis l'Éternel qui te guérit. Au désert de Mara, où la maladie s'est abattue sur toi, tu es dans le lit de l'amertume, tu es dans le désert de la fatigue, tu es dans le désert de la dépression, tu es dans le désert de la maladie, tu es dans le désert de la souffrance. Dieu vient lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui vient. Vous voyez, Moïse était là, ce n'est pas Moïse qui a parlé au peuple, Moïse n'a rien fait. Au désert de Beersheba, ce n'est pas Abraham qui est venu parler à Agar. Abraham ne pouvait rien faire pour Agar. Au désert de Chour, à Mara, personne ne peut t'aider, même pas Moïse. Sauf Dieu qui dit, il y a un seul bois, Moïse. C'est la croix du calvaire. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et as-tu expérimenté ça? Aujourd'hui dans ton amertume, Dieu guérit l'amertume. Dieu guérit la haine. Dieu guérit la maladie physique. Dieu guérit tous les liens, les troubles qui sont en toi, mon frère. Ne joue pas avec cela. Ta vie chrétienne ne sera jamais heureuse et épanouie. Dieu veut te guérir ce matin. Dis, je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit. Je me révèle à toi. Je veux te guérir ce matin. Je vois ton amertume. Progressons. Allons au désert de Sin. Troisième désert que nous allons voir. Nous sommes en marche vers Canaan, n'oubliez pas. Nous sommes en train d'aller vers Canaan, la terre promise, la victoire. Mais il faut traverser le désert. Chapitre 16 maintenant. Exode 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin. Vous ne pouvez pas sauter ces déserts. Vous ne pouvez pas les sauter. Vous passerez par Beersheba, désert. Vous passerez par le désert de Chour. Mais maintenant, ce que vous pouvez éviter, c'est de durer dans le désert. Ça dépend de vous. Certains sont restés au désert de Beersheba. Ah, gloire à Dieu, l'eau vive. Ils n'ont jamais progressé. Ils n'ont jamais su qu'est-ce que Canaan, la victoire. D'autres sont arrivés au désert de Chour. Ils ont dit, ma vie chrétienne ne peut pas aller au-delà du désert de Chour. Je ne peux pas pardonner à cette femme qui m'a fait tant de mal. Mon seul mal a été d'aimer son fils. Elle a détruit ma vie. Quand ton mari dit, on va prier pour ma maman, déjà, il y a des choses qui s'élèvent. Elle a gâché. Donc, toi, ta vie chrétienne s'est arrêtée au désert de Chour. Ton expérience au désert de Chour. Et là encore, tu restes là longtemps parce que tu ne peux pas voir Dieu qui guérit. Tu ne peux pas te guérir toi-même. L'amertume, on ne peut pas se guérir de l'amertume. Mais Dieu dit, je vais te guérir. Est-ce que tu veux que je te guérisse? C'est cela. Et veux-tu que je te guérisse? As-tu la volonté? Tu n'as pas la puissance. Mais moi, je produis le vouloir et le faire. Est-ce que tu veux que ce matin, je produise en toi le vouloir et le faire? Si tu veux ça, je vais le faire. Si tu ne peux pas, je reconnais que tu ne peux pas. Mais veux-tu que je produise moi-même le vouloir et le faire? Ne reste pas au désert de Chour, mon frère. Va, progresse au désert de Sin. Certains sont arrivés là-bas. Le désert de Sin, qu'est-ce que c'est dans la vie chrétienne? Au désert de Sin, là encore, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Au désert de Sin. C'est le désert où, souvent brusquement, après être devenu chrétien, le désert de Sin, c'est le dépouillement des choses matérielles. Plus rien ne marche. Et les gens ont envie de retourner dans l'Égypte, dans le monde. Oh, quand nous étions dans le monde, on avait beaucoup d'argent. On se faisait de bonnes affaires. Il y avait des compromis qu'on pouvait faire. Depuis que je suis devenu chrétien, mes ressources sont épuisées. Je n'arrive même plus à nourrir ma famille. Je n'arrive plus à pourvoir aux besoins de ma famille. Et au désert de Sin, les murmures commencent. Seigneur, pourquoi n'avons pas assez de nourriture? Pourquoi ma femme et Mes enfants n'ont pas de vêtements. Quand j'ai voulu devenir pasteur du Mouès, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, maintenant en 1989, de démissionner. J'étais le directeur général de la plus grosse société commerciale de mon pays. J'étais vice-président de la Chambre de commerce. J'étais le vice-président du Conseil économique et social et le président de la compagnie aérienne. Dieu me dit maintenant, le temps est arrivé de démissionner. Vous entendez? Alors, quand cela a commencé à être entendu par mes parents, mon grand frère m'a envoyé un télégramme pour me convoquer au village. Un télégramme, hein? Pourtant, il y a le téléphone, mais il n'a pas... Parce qu'en Afrique, quand on envoie un télégramme, ça veut dire que c'est très, très, très important. Il faut venir vite à la maison. J'ai pris donc ma voiture, je suis allé au village. Quand je suis arrivé, c'était un deuil familial. Je croyais qu'un parent était mort sans qu'on m'ait prévenu. Et tout le monde s'est assis là en rond comme on le fait, le cercle familial, et on m'a mis au milieu. J'ai su en ce moment que c'était moi qui étais la source du deuil. Mon grand frère, c'est comme cela, puisque il a bien raclé sa gorge. Puis il a dit, mais on ne comprend pas, c'est toi qui es notre ressource, parce qu'en Afrique, un seul peut nourrir 20, 30, 40, 50. C'est toi qui es notre ressource. C'est toi qui envoies l'argent. Tu as mis tes petits frères tu as payé leurs études. Tu nous envoies de l'argent régulièrement à ta maman et à moi-même, à tes frères qui sont restés au village. À cause de cela, nous mangeons bien, nous vivons bien. Nous avons appris par les rumeurs que tu veux démissionner. Tu veux démissionner. Alors, nous t'appelons pour te demander quelle est la raison. Est-ce que tu sais quelle est la vie des pasteurs? J'ai dit non. Il dit, les pasteurs que nous connaissons ici ont des pantalons troués. Leurs femmes sont habillées avec des vieux habits que les chrétiens leur donnent. Ils n'arrivent pas à payer les frais de scolarité de leurs enfants. Et toi, tu laisses cette abondance-là pour être comme un pasteur. Et bientôt, on va te voir pantalon troué, avec des chemises trouées. Et tu vas dire que Dieu t'a appelé. J'étais très mal à l'aise. J'ai rapidement demandé secours à Dieu. Ma mère était là. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez votre famille et tout le monde compte sur vous. Vous êtes là, vous devez prendre une décision. Et seul face à tout le monde, on vous regarde maintenant. J'ai dit, Seigneur, si jamais tu as aidé quelqu'un, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et rapidement, Seigneur. Sinon, je ne sais pas ce que je vais leur dire. Et il m'a donné une image. J'ai expliqué, d'abord, il m'a montré que le point faible de la chaîne qui était là, c'était ma mère. Si j'arrivais à toucher ma mère, son cœur, si elle, ce chaînon-là était brisé, c'était fini. Je pourrais avoir toute la famille. Donc j'ai regardé ma mère, je lui ai dit, maman, est-ce que tu penses que le gouvernement paye ses fonctionnaires? Il dit oui, le gouvernement paye ses fonctionnaires. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut être embauché par Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas capable d'entretenir la vie de cette personne? Vraiment de lui donner la nourriture. As-tu déjà vu un homme de Dieu mourir de faim? Ma mère a baissé la tête et elle réfléchissait et puis elle a souri. Dès qu'elle a souri, je savais que j'ai gagné la bataille. J'ai gagné la bataille. Frère, ce que je vous dis, parce qu'au désert des signes, Satan va te dire, depuis que tu es devenu chrétien, regarde. Mon propre pasteur m'a raconté l'histoire de son fils. Pour les congés d'hiver, quand nous étions à Toulouse, pour les congés d'hiver, donc il fallait que tous les enfants qui sont au collège, les parents puissent payer pour qu'ils aillent pour les congés d'hiver, pour les skis, pour faire donc. Et le pasteur, mon pasteur, son fils est venu, il dit, papa, on nous a dit d'apporter, je ne me rappelle plus, ça devait être 50 francs français à l'époque, pour les vacances d'hiver pour aller faire le ski. Et le pasteur n'avait pas ses 50 francs. Alors l'enfant a explosé. Il dit oui, quand tu étais ingénieur de la météo, nous avions de l'abondance, on a la nourriture, on faisait tout. Depuis que tu es devenu pasteur, il n'y a plus rien qui marche ici. Mais oui, c'est terrible, hein, frère. C'est sûr et certain, au désert de Sin, les gens vont commencer à murmurer. En Égypte, on avait de l'abondance. En Égypte, on avait de la nourriture. Oh, maintenant, vos parents m'ont dit, depuis qu'ils sont devenus chrétiens, regardez leur vie. Ils sont devenus bizarres. Vos parents vous ont jamais dit cela. Vos parents proches ou lointains vous ont jamais dit cela. Oh, mais ils sont devenus bizarres. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et tout le monde se moque. Et Satan viendra vous dire, au désert, en Égypte, là-bas, il y avait de l'abondance. Alors, le pasteur, mon pasteur, était vraiment dépassé. Il est parti prier. Et il a dit à son fils, pour que tu saches que mon Dieu est un Dieu réel, Dieu vrai, mettons-nous à genoux. Dans le salon, ils se sont mis à genoux. Et il a crié à Dieu. Il dit, tu vois, Seigneur, mon fils ne sait pas que tu pourvois aux besoins, que tu es Jéhovah Jireh. Il ne sait pas cela. Pour lui, c'était moi qui pourvois à tous ses besoins. Mais maintenant, Seigneur, je te prie, montre à cet enfant que tu es celui qui pourvois à ses besoins. Ils se sont levés. Il a dit Amen, mais l'enfant, son figure était toujours comme ça. Pour lui, il fallait qu'il aille au congé d'hiver, au ski d'hiver. Donc, et le problème n'était pas résolu. L'après-midi, il y avait réunion à l'église. Ils sont arrivés l'après-midi. Quand ils sont arrivés, ils sont entrés. Le père et le jeune homme sont entrés dans l'église. Il y a une sœur qui s'avance vers le pasteur, ne sachant pas qu'est-ce qu'il y avait. Elle salue le pasteur. Mais dans sa main, elle avait mis quelque chose. Elle salue le pasteur. Et quand elle a fini de saluer le pasteur, il y a quelque chose qui est dans la main du pasteur. Donc, quelque chose est resté dans la main du pasteur. Il n'a pas osé regarder. Mais il a appelé son fils de côté directement. On est rentré ici, tu as vu, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Il dit non, j'ai salué une dame et elle t'a salué. Viens ici. Et il était sûr qu'il y avait un billet de 50 francs dans sa main. Quand ils sont partis de côté, il a dit à l'enfant, tends ta main. L'enfant a tendu sa main, il a mis le billet là-dedans, il dit, ouvre et regarde. Quand l'enfant a ouvert, c'était les 50 francs dont ils avaient besoin. Vous voyez, on ne peut pas enseigner les gens par théorie. Il faut que les gens fassent leur expérience. Au désert de Sin, il faut, là ils ont crié, ils ont dit, Dieu dit à Moïse, je vais faire venir de la nourriture, de la viande pour ce peuple-là. Mais Moïse a été incrédule. Il dit, ah Seigneur, il y a 2 millions de personnes, où est-ce que tu vas avoir de la viande pour les nourrir? Mais Moïse était dépassé. Dieu a fait venir le vent, les cailles sont venues. Dieu, c'est dans le désert de Sin que Dieu a envoyé la manne. Si vous avez lu, la manne pour les nourrir, et leurs vêtements n'ont pas été usés. Au désert de Sin, Dieu se révélera à vous, comme Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha au désert de Shur, Jéhovah Jireh au désert de Sin. Il va pourvoir à vos besoins. Il vous aidera. Il vous gardera. Dans le désert de Sin que j'ai traversé, quand je suis revenu dans mon pays pour travailler, frères et sœurs, on me donnait un certain salaire. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, vous devez vous occuper de vos parents. Donc, il fallait que ce soit moi qui m'occupe, parce que j'étais le seul qui travaillait dans ma famille. Je m'occupe de mes petits frères. Il fallait payer leurs frais de scolarité. Il fallait envoyer de l'argent à la maison régulièrement pour ma famille, au village, pour que la grande famille, pour qu'ils vivent de ça. Et nous étions épuisés, ma femme et moi. Et avant le 20 du mois, nous n'avons plus rien comme ressources. De telle manière que je ne payais plus mes dîmes et mes offrandes. J'ai dit à Dieu, comprends-moi un peu, j'ai trop de problèmes. Mais Dieu ne veut pas nous comprendre. Dieu sait que la dîme et les offrandes, ce n'est pas une chose avec laquelle on doit s'amuser. Et plus je ne payais pas la dîme et les offrandes, plus je devenais pauvre. Plus ma marmite, ma poche était trouée. Comme le prophète âgé le dit. Alors un jour, ma femme a décidé, après avoir écouté un témoignage, qu'elle va s'engager, quelles que soient les difficultés, de payer sa dîme et donner ses offrandes. Elle a dit, non seulement je vais être fidèle, mais ce que j'ai déjà volé à Dieu, je suis prête à restituer ce que j'ai volé à Dieu. Alors comme ma femme a fait ce vœu, moi en tant qu'homme, je dois faire plus. Si ma femme a dit ça, moi je dois faire plus. Et je me suis décidé, ouais, l'homme est toujours comme ça, l'homme est orgueilleux. Oui. Au lieu de dire merci au Seigneur pour sa femme, on veut faire mieux qu'elle. Alors je me suis décidé, j'ai dit à ma femme, on fera. Et la fin du mois, c'était difficile. Et ma femme, comme toute femme, les femmes, quand elles sont décidées, elles vont jusqu'au bout. Elles sont jusqu'au boutiste, même si ce n'est pas sur le plan négatif. Elle a apporté sa dîme et ses offrandes. Bon, pour ne pas être dernier, j'ai apporté ma dîme et mes offrandes. Et mais, quand nous avons dit cela, j'ai pris un carnet sur lequel Dieu m'a inspiré, dit, mais maintenant que tu es fidèle, voici ton salaire que tu as, il est dérisoire. Dis-moi ce que tu veux. Alors à l'époque, frère, les salaires qui étaient au Burkina Faso et ne dépassaient pas pour les cadres et tout, j'avais à l'époque même pas, ça fait 500 francs, c'est ça, 500 francs français aujourd'hui, en tant que cadre. Et Dieu m'a dit de marquer là 5000 francs par mois. Et j'ai dit à Dieu, mais ici au Burkina Faso, un salaire de 5000 francs, c'est ça, 500 000, non, c'est ça. Ici, comme Moïse, Moïse dit, ici au désert de Sinaï, il peut avoir de la viande. J'ai écrit dans mon carnet, et mais j'ai dit, ok, Seigneur, ça ne fait rien. Si on rêve, vaut mieux rêver, et puis c'est bon. Il y a des moments où nous avons besoin de rêver, de nous consoler par des rêves. Alors j'ai écrit ce chiffre dans mon carnet, j'ai prié avec ma femme, j'ai fermé. Frère, Dieu est extraordinaire. Faisons attention à ce que nous faisons, parce qu'il va nous prendre au mot. Une semaine plus tard, quand j'ai fait cela, on m'appelle au ministère du Commerce. Le ministre du Commerce m'appelle, il dit, Monsieur Karambiri, nous avons besoin d'un jeune directeur commercial pour une usine de textile située à 90 km d'ici. Et nous avons regardé parmi les cadres, selon votre curriculum vitae, vous avez fait le commerce international, vous avez fait la gestion des entreprises, vous avez fait ceci ou cela, cela. Donc nous pensons que vous êtes le modèle, le type qu'il faut aller. Je venais d'arriver à deux ans seulement. On va vous envoyer comme directeur commercial de l'usine de textile. Moi, j'étais pas content, parce que j'ai quitté la capitale pour aller dans une ville de province. Or, à l'époque, il fallait être dans la capitale pour avoir des promotions. Je ne savais pas que Dieu pouvait me promouvoir sans passer par la capitale. Alors, bon, j'étais là, j'ai dit à monsieur le ministre, j'ai dit, bon, monsieur le ministre, je vais aller réfléchir, je vais voir ma femme, on verra. J'ai dit à ma femme, bon, elle a dit, il n'y a pas de problème, prions. Nous prions, et la semaine suivante, le directeur général de l'entreprise vient. Il me trouve à la maison et dit, bon, le ministre du Commerce m'a touché en disant que vous remplissez les conditions. Voici, nous sommes venus vous voir. Moi, je n'étais pas enchanté vraiment d'aller dans cette ville-là. Mais quand il a fini de parler, il me dit, maintenant, voici le salaire qu'on va vous donner. Oh, j'étais là. Il me dit, bon, on vous donnera 5 000. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Frère, oui, mais je n'ai plus écouté le reste. Puisqu'après, il a continué, je n'écoutais. Il a dit, vous aurez une villa, vous aurez une voiture, vous aurez et cuisinier. Tout ça, ça ne m'intéressait pas. Ce n'est que les 5000. Alléluia. Désert de Sin. Dieu pourvoira vos besoins. Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoira vos besoins. Continuons pour terminer les deux déserts que j'ai notés. Exode 19. Exode 19. Oh, où te trouves-tu aujourd'hui? Désert de Sin. Désert. Quel désert nous allons voir maintenant? Désert. Oh. Exode 19. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert du Sinaï. Désert du Sinaï, quel parcours. Frères, ils sont arrivés là-bas, et là, Dieu va se révéler à eux. Dans le désert du Sinaï, Dieu va vous révéler. Là, puisque vous savez que vous devez avoir un ministère dans l'église, vous n'êtes pas simplement, nous ne venons pas à l'église pour remplir les bancs de l'église. Nous venons à l'église parce que nous sommes des membres, mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas quel est leur rôle. Ils ne savent pas quelle est leur fonction. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Pour eux, ils viennent, ils tapent les mains. Dans la Bible, il n'y a pas la fonction de taper de mains dans l'église, dans la Bible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas cette fonction. et nous n'allons pas devant Dieu, mais au désert des signes. Dieu va leur révéler maintenant pourquoi il les a sauvés. Il va leur révéler là-bas pourquoi il les a sauvés de l'Égypte. Au verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà le but. Au désert de Sinaï, Dieu viendra vous dire quelle sorte de sacrificateur vous devez être. Est-ce que sacrificateur dans la louange, dans l'intercession? Si vous arrivez, vous êtes là-bas, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas quoi faire, allez-y devant Dieu. Asseyez-vous là, demandez à Dieu quelle est ma place dans le corps de Christ. Quelle est la fonction que je dois jouer? Frères et sœurs, Dieu va vous le dire clairement. Il va vous le préciser. Et vous n'allez plus gêner les autres. Vous n'allez plus vraiment contrecarrer le mouvement qui n'est pas dans l'église. Car si vous savez quelle est votre place dans l'église, si vous êtes dans l'intercession, dans l'évangélisation, si vous êtes le département des prisonniers, pour aller voir les malades, pour aller à l'hôpital, leur prodiguer l'amour de Christ, si vous savez quelle est votre fonction, vous allez être en harmonie dans le corps de Christ et vous n'allez pas déranger les autres membres. Vous imaginez, si mon genou se mettait à la place de mon cou, imaginez que ça va faire, ça n'a pas fonctionné. Si vous ne savez pas quelle est votre place, vous allez déranger le corps de Christ. Vous allez vouloir jouer au rôle, la fonction de genou, or vous étiez simplement un doigt. Et vous allez perturber le fonctionnement de l'église locale. Vous allez venir régulièrement, mais aller dans la prière. Au désert de Sinaï, Dieu viendra vous révéler pourquoi il vous a sauvé. Et il vous dira quelle est la fonction pour laquelle il vous a appelé. Il vous révélera tout cela. Frère, le dernier désert dans 1 Samuel 25. Ça se trouve dans l'ombre, on va aller dans 1 Samuel 25, on va pas le lire verset 1, c'est le désert des parents. Le désert des parents, quand Samuel le prophète est mort, David était là face à Saül. David a commencé à fuir puisque l'homme qui faisait la sécurité pour lui, c'était Samuel. Maintenant que sa sécurité est morte, David va découvrir au désert des parents. Désert des parents, ça veut dire désert des cavernes, des refuges. Il va découvrir que Dieu est un refuge pour lui. Jusqu'à présent, c'est Samuel qui était son refuge. C'est Samuel qui faisait tout en Israël pour lui. C'est Samuel qui partait parler à Saül de ne pas faire ceci, de faire cela. Maintenant que Samuel est mort, sa sécurité est morte, son refuge est mort, alors Dieu va devenir un refuge pour David. C'est pourquoi il écrit dans ses psaumes, Dieu est un refuge pour moi. Dieu est une forteresse. Parce que David a découvert cela. Ce n'est pas des chants qu'il a inventés. Il ne s'est pas assis pour dire, Seigneur, je vais te chanter un chant, donne-moi, inspire-moi les paroles. Aucun psaume de David n'a été inspiré comme ça. Hein. Les psaumes de David, ce sont des expériences qu'il a mises en musique. Ce sont des expériences qu'il a mises en musique. Et il a découvert qu'au désert des parents, Dieu est un refuge. Dieu est sa forteresse. Dieu est son rempart. Et que quand l'ennemi vient contre lui, rien ne peut se faire. Quand l'ennemi viendra contre lui comme et le fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Alors mon frère, ce matin, où en êtes-vous, ma sœur? Désert de Beersheba, où vous avez rencontré l'eau vive? Avez-vous progressé au désert de Chour? Au désert de Chour, où Dieu vient se révéler à vous? Dieu vient vous montrer ce qui ne va pas. Où êtes-vous au désert de Sin? L'amertume étant passée, vous êtes au désert de Sin. Dieu vient pour pourvoir vos besoins. Où êtes-vous au désert de Sinaï ou au désert des parents? Quelle est votre expérience ce matin? Ici, quelle est votre expérience? Où en êtes-vous? Dans quel désert vous êtes? La Bible est remplie de déserts. Il y a plus de 15 déserts que j'ai étudiés. On n'a pas le temps ce matin, mais étudiez-le vous-même, vous allez voir dans quel sort de désert vous trouvez. Si vous ne vous trouvez pas dans un de ces 5 déserts-là, ne tapez pas les mains, hein. Ne dites pas, ouf, moi je suis, non mon frère. Il y a d'autres déserts, le désert de Mahon, le désert, il y a d'autres déserts terribles que tu n'as pas vu. Mais ce matin, dans quel désert tu te trouves? Baissons la tête. Dans quel désert te trouves-tu ce matin, mon frère? au désert de Beersheba, comme Agar fatiguée, désespérée, ne sachant plus que faire, tu as baissé les bras en croyant que c'est le défaitisme. Ce n'est pas le défaitisme, elle ne pouvait plus rien faire pour elle et son enfant. C'est en ce moment qu'elle a entendu la voix de Dieu. Ce matin, Dieu te parle, mon frère. Tu es désespéré, tu ne sais que faire. Toi qui es dans le désert de Beersheba, si tu sais que c'est dans le désert de Beersheba que tu es, associe-toi à moi maintenant. Dieu dit, si deux s'accordent sur la terre pour demander chose quelconque, lève ta main là où tu es. Si tu sais que tu es dans le désert de Beersheba comme Agar, lève ta main. Nous allons prier pour que, aujourd'hui ou dans les jours à venir, Dieu vient se révéler comme le Dieu de toute consolation. Qu'il vienne te révéler le puits du serment, le puits de Beersheba. Lève ta main, nous allons prier ensemble. Tu es dans le désert de Beersheba. Seigneur, plusieurs ont levé la main. Ils sont dans le désespoir, dans le découragement. Ils ont essayé toutes les techniques. Leurs ressources sont épuisées. Leur outre d'eau est épuisée. Leur pain est épuisé. Seigneur, tu as promis d'ouvrir leurs yeux. Comme tu as ouvert les yeux d'Agar, elle a vu le puits de Beersheba. Le puits du serment, Seigneur. Ce matin-là, Père, puisqu'ils ont levé la main avec moi, se sont accordés. Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Révèle-leur le puits d'eau vive. Révèle-leur le cœur de Dieu, Jésus-Christ. Montre-leur que ce cœur-là contient l'eau vive pour rafraîchir leur vie. Que leur épuisement, leur désespoir, leur dépression, Seigneur, guéris-les de cela ce matin en leur donnant l'eau vive à boire. Père, je te loue, je te bénis pour cette grâce que tu fais à ces hommes et à ces femmes. Révèle-toi pour cela au nom de Jésus. Amen. Baissez la main si vous êtes dans le désert des choux, l'eau de Mara, l'amertume a envahi votre âme. Allez-vous poser votre main gauche sur votre cœur et levez la main droite. Vous posez votre main gauche sur le cœur et vous levez la main droite. Dieu dit, je t'amène dans le désert des choux et là je parlerai à ton cœur. Ce matin, Dieu dit, j'ai vu l'amertume dans ton cœur. Tu ne peux pas pardonner par toi-même. Tu ne peux pas te libérer de cette amertume, de cette chaîne de haine, oh, de cette culpabilité, du fait que tu n'as même pas voulu voir ton père depuis que tu as réussi. Dieu dit, veux-tu retourner vers ton papa pour lui parler? Veux-tu retourner vers ta belle-mère après cette réunion, après ce séminaire, pour aller vers elle? Je vais produire le vouloir et le faire en toi si tu le veux. Alors tu lèves ta main droite, tu poses ta main gauche sur ton cœur, afin que Dieu ce matin, par le Saint-Esprit, mette en toi le vouloir et le faire. Oh, ils voient que tu pleures. Ça ne voit pas. Père de grâce et d'amour. Ils ont levé la main. Tu vois l'amertume dans leur âme. Cette amertume, ils ont raison. Ils ont raison, Seigneur. Mais leur raison ne leur sert à de rien. La raison amène des pleurs régulièrement. L'amertume, la haine, se trouve dans leur cœur vis-à-vis de leur père, vis-à-vis de leur mère, de leur belle-mère, vis-à-vis de leur patron. Ce matin, Père, dans le désert des choux, où il y a l'eau amère de Mara, Père, viens et guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Révèle-toi à eux comme le Dieu qui guérit leur amertume, qui guérit leur blessure intérieure. Père, restaure et purifie, enlève cette amertume. Que les liens de la haine, les liens de l'amertume soient brisés ce matin au nom de Jésus-Christ. Par la croix de Calvaire, révèle-toi à eux et guéris leur amertume ce matin. Donne-leur de se réconcilier avec les parents, avec les voisins, avec tous ceux du service, avec le Seigneur contre qui ils ont des amertumes. Mais ta guérison en eux maintenant, Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Troisième groupe, vous baissez la main, le désert des signes. Vous êtes au désert des signes, vous pensez que Dieu ne peut pas pourvoir à vos besoins. À cause de cela, vous êtes infidèles dans les dîmes et les offrandes. À cause de cela, vous volez Dieu, ne sachant pas qu'en volant Dieu, vous volez vous-même. Levez la main ce matin pour dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus être voleur. Oh Seigneur, j'ai regardé, mes besoins financiers et naturels et matériels ne sont pas pourvus. À cause de ça, je murmure contre toi. Je dis, mais quelle sorte de Dieu je sers? Je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à payer des bonnes choses pour mes enfants et ma femme. Je n'arrive pas à m'en sortir. Seigneur, à chaque fin de mois, vraiment, j'ai des difficultés. Mais Seigneur, ce matin, je viens vers toi dans ce désert des signes, où tu as donné les cailles, où tu as donné la manne. Viens à mon secours ce matin. Révèle-toi comme Jéhovah Jireh dans ma vie. Montre-moi que tu es le pourvoyeur. Père, prends contrôle de ma vie ce matin, dans les choses matérielles, financière, Seigneur, je vais faire confiance en toi. Délivre-moi de cette emprise. Père, je me livre à toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous au désert de Sinaï? Vous ne savez pas quel rôle vous jouez dans l'église. Vous venez à l'église et vous êtes là, vous regardez, vous critiquez, mais vous ne jouez pas un rôle. Levez la main ce matin, afin que Dieu vous révèle quelle est la fonction qu'il va vous donner. Père, je prie, avec ceux qui ont levé la main, tu vois combien ils sont dans l'église, ils sont flottants, ils savent que faire, ils ne connaissent pas leur position. Père, je prie ce matin, que toi-même par le Saint-Esprit, quand ils vont retourner chez eux, dans leur temps de prière, viens vers eux, révèle-leur la place que tu leur as donnée, révèle-leur le ministère, la fonction que tu leur as assignée dans l'église, afin qu'ils soient utiles dans le corps de Christ. Père, je te prie ce matin avec eux, je m'accorde avec eux ce matin, et je te fais confiance au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous au désert de Mahon, parents, où vous fuyez devant l'ennemi, où tout est contre vous, voulez-vous faire de Dieu votre refuge? Il veut se révéler à vous comme le Dieu de refuge. Alors lève la main, parce que tu as essayé de te réfugier dans les hommes, et les hommes t'ont déçu, les hommes t'ont trompé, mais Dieu seul est ton refuge. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas confiance. Ce matin, il veut se révéler à toi comme le Dieu du refuge. Père, je prie, avec mes frères et sœurs qui ont levé la main, révèle-toi eux comme le Dieu du refuge. Dans les temps difficiles, sois leur forteresse, sois leur mur, Seigneur, sur lequel ils peuvent s'appuyer, sois leur forteresse et leur refuge. Viens à leur secours, montre-leur que tu es le Dieu qui se révèle dans chacun des déserts. Père, fais fleurir leur désert maintenant. Fais fleurir leur désert maintenant. Père de grâce et d'amour, je te remercie pour chacun de tes enfants, pour ton peuple, pour ceux qui ne sont dans aucun de ces déserts-là. Père, révèle-leur leur désert quand ils vont étudier ta parole. Révèle-leur leur désert et sois avec eux dans leur désert, car tu as dit que tu les conduiras toi-même. Tu parleras leur cœur. Je te prie ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, que le peuple dise, Dieu dise, Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est notre message de culte ce matin. C'est différent des messages d'évangélisation du soir, mais c'est un message qui parle à nos cœurs. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Cet après-midi, s'il y a, bon, on va demander quelques témoignages de gens qui ont été touchés depuis le début, comment Dieu a touché, Dieu a guéri. Vous pouvez, ce soir-là, quand on va venir, vous lever la main et nous dire simplement ce que Dieu a fait dans votre